Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour le bon temps de louange qu'on a eu ce matin. Puis je te remercie pour le bon temps d'étude de ta parole qu'on va avoir. Parce qu'on le sait, Seigneur, que tu nous parles par ta parole. Puis c'est elle, ta parole, qui est la vérité. Ce matin, on puise dans ta parole un message spécial qui est le cœur, le centre de toutes les promesses de Dieu pour la nouvelle vie en Jésus. Je te demande, Seigneur, de nous faire comprendre ces choses, puis nous donner une soif qui grandit de plus en plus à vouloir être rempli et revêtu du Saint-Esprit. Je remets cette réunion entre tes mains dans le nom de Jésus. Alléluia! Ce matin, comme j'ai dit dans ma prière, c'est le centre des exaucements du Nouveau Testament. Jésus, fallait qu'il vienne sur la terre et accomplir de quoi de spécifique, qui permettait d'ouvrir une nouvelle parenthèse dans cette vie, une effusion de son Saint-Esprit. Tout ça, c'était promis dans l'Ancien Testament, mais c'était pas encore répandu comme ça devait l'être. Ça l'a, l'ouverture de cette source, de même plus que cette source, de ce torrent, de ce fleuve d'eau vive, ont été répandus à partir de la Pentecôte. On va voir à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé. On va voir des passages de la Bible qui nous parlent de la puissance du Saint-Esprit qui peut venir sur chacun de nous. Puis vu que c'est un cours sur les premiers pas, c'est bien entendu, c'est encore les choses de base de la vie chrétienne. Tout croyant doit comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi, ce que je vous suggère, c'est après avoir fait l'étude puis vous n'avez pas encore saisi, reprenez la feuille, allez relire les versets, demandez à Dieu qu'il vous les montre, qu'il vous les fasse comprendre. C'est important que tout le monde aille chercher ce qui est annoncé là. Si vous allez pas, si vous ne l'obtenez pas puis parce que vous ne le recherchez pas, vous ne pouvez pas vivre une vraie vie chrétienne. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est zéro. La Bible nous dit que si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Puis c'est à partir du moment que tu le reçois. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Parce que t'es né de nouveau, t'es né de l'Esprit, t'as reçu le Saint-Esprit en toi, ça fait de toi une nouvelle créature, puis une nouvelle vie qui commence. Ceux qui sont en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes s'est passées, et voilà, toute chose est devenue nouvelle. Tout ça, ça commence à la réception du Saint-Esprit. On va voir en premier, le titre du message, c'est « Le chrétien et le baptême du Saint-Esprit ». On va voir que c'est une promesse dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, qu'il y aura un esprit, et pas n'importe quel esprit, parce que les anges sont des esprits. Mais là, je ne parle pas d'une touche d'un ange. Je parle d'une touche d'un esprit qui n'est pas n'importe quel esprit. L'Esprit de Dieu. Dieu lui-même, Dieu est esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit éternel, veut être répandu à travers de nous. Il veut agir en nous, puis il veut être répandu à travers tout le monde. C'est quelque chose de glorieux. Comment ça a commencé? C'est Isaïe 61:2. Alors regardez bien ce verset-là, qu'est-ce qu'il est en train de promettre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Ça, c'est un verset qui était écrit dans l'Ancien Testament. C'est une promesse qui était dans l'Ancien Testament, qui disait qu'elle était pour oindre quelqu'un. Quand on parle de oindre, on entend souvent ça dans notre langage évangélique, j'ai l'onction, j'ai été oint, oindre. Ça, c'est comme si tu prends de l'huile, puis tu verses de l'huile sur la tête à quelqu'un. Tu lui donnes une onction, c'est comme si tu répands de l'huile. Ça, c'est une figure de on dit aussi effusion. C'est que le Saint-Esprit, qui est comparé à l'huile, il est déversé sur la personne, puis qui coule sur sa tête, puis coule sur son corps. Mais là, ce verset-là est en train de dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de dire, qui a reçu cette onction-là, puis cette onction-là, c'est l'Esprit du Seigneur qui est tombé sur lui. De qui est-ce que ça parle, ce verset-là? Mais ça a eu son accomplissement dans Luc, au chapitre 4. Jésus, au début de son ministère, il était dans le temple, tous les Juifs étaient devant lui. Jésus sort le livre, il déroule le livre, puis il commence à lire ce verset-là. Il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. » Puis pourquoi que Jésus a été oint? Il y avait une mission à faire. Puis il est important que Jésus soit oint pour accomplir sa mission. Quelle est cette onction-là qu'il a reçue? C'est une onction, c'est comme si le Saint-Esprit vient sur lui, puis ça a fait que Jésus a commencé toute sa série de miracles que la Bible nous parle. On le voit que même dans Promesses, c'était écrit, « Il m'a envoyé pour guérir. » Fait que Jésus a reçu l'onction pour être envoyé pour guérir. Puis on voit qu'il ne guérit pas avec les corps, il guérit les cœurs. Les guérisons de l'âme. Ton intérieur peut être toute défaite, tu peux avoir vécu des choses difficiles. Jésus a été oint pour te guérir. Puis en même temps, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es lié dans ta vie. T'as des chaînes qui te tiennent captifs. T'es prisonnier. T'es capturé par des péchés que t'es toujours en train de répéter. T'es accroché par ces péchés-là qui sont agrippés après toi. Jésus a reçu une onction pour délivrer les captifs et les rendre libres. Il donne une délivrance aux prisonniers. Puis en même temps, annoncer une année de grâce qui était le commencement de la période de grâce. Qui a commencé à travers Jésus quand il est mort, le pardon des péchés a été répandu à tous, puis grâce à ce que Jésus a fait, ce temps de grâce-là a commencé, puis on est en l'an de grâce 2010 après Jésus-Christ, on a une grâce qui a commencé à cause que Jésus a été oint pour accomplir son service. Dans Luc 4, 21, le verset nous dit, suite après l'avoir lu, ce texte-là de l'Ancien Testament, Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus était déjà oint. Il avait été rempli, revêtu du Saint-Esprit pour une mission. Guérir les malades, chasser les captifs, briser les liens des chaînes des captifs. En délivrant les gens de l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Sans, je le répète, sans qu'il reçoive cette onction-là, il n'aurait pas pu faire son ministère. Aucun humain n'était qualifié pour faire ce ministère-là. Ça prenait une onction spéciale qui venait de Dieu, une huile qui coule sur lui, puis cette huile-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'a-t-il eu comme résultat suite à son revêtement de puissance? Qu'est-ce qui s'est produit suite à son revêtement de puissance? Luc 4, 14. Dans Luc 4, on voit, juste un petit peu avant du verset 14, on voit que Jésus, il était conduit par l'Esprit L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, a conduit Jésus dans un désert pour être tenté par le diable. Là, Jésus a combattu contre le diable, il a répondu au diable avec des versets de la Bible, puis il a eu la victoire parce que le diable, il n'a pas eu aucune occasion ce que Jésus est tombé dans le péché. Jésus, comme vous le savez, n'a commis aucun péché. Le diable n'avait pas d'emprise sur lui. Fait que Jésus, il a continué à combattre contre le diable. Puis tout de suite après, quand il a sorti du désert, ça dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » À partir du moment que Jésus aura été revêtu de cette puissance pour accomplir cette mission-là, sa renommée était répandue partout. Puis c'est là, juste après ça, qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il a reçu l'Esprit du Seigneur pour la mission. Puis à partir de ce moment-là, Jésus allait partout, guérissant toutes les malades, toute maladie, toute infirmité, puis délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La puissance de Dieu agissait à travers Jésus, puis c'était pour accomplir la promesse qui était écrite dans l'Ancien. Regardez dans Actes 2, 22, ça nous donne comme une conclusion là, ce que je viens de vous dire. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, on voit l'histoire de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, puis Jean, ils ramènent les histoires. Mais quelques histoires de ce que les témoins ont vu et entendu. Puis ce n'est pas tous les miracles que Jésus a faits qui ont été écrits dans le Nouveau Testament. Seulement qu'une partie. Jean il a dit, si on a réécrit tout ce que Jésus a fait, il ne croit même pas qu'il y aurait assez de place sur la terre pour écrire tous les livres qu'on aurait pu y écrire. Ce qu'on a, c'est comme un résumé. Mais tout le long dans les évangiles, Jésus rentra dans une ville. Des centaines de malades venaient à lui. Tous étaient guéris. Tous étaient délivrés d'emprises démoniaques. Il est arrivé à des moments où il y avait des personnes mortes. La personne était morte. Jésus arriva à côté du mort, il a touché le mort, puis le mort est ressuscité. Vous avez tous lu l'histoire de Lazare. C'est un autre moment où il a fait une résurrection. La mort était même en décomposition. Mais parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui, il a dit aux morts, « Sors, Lazare! » À ce moment-là, la mort a sorti tout lié de bandelettes parce qu'il était tout Il avait des bandages. Il était comme enrobé de bandages. Fait qu'il est venu sûrement en sautant... tout en mitouflé, là, tout pogné dans ses bandages, puis il ne voyait pas clair, mais il est sorti pareil, parce qu'il avait déjà été embaumé, parce qu'il était déjà mort depuis plusieurs jours, puis il sentait déjà le mort, fait qu'il était déjà en décomposition, puis Jésus a ressuscité cette personne-là, puis il le ramenait à la vie. Ça nous dit dans le verset, dans Acte 2, 22, « C'est Dieu qui a rendu témoignage. » C'est Dieu qui a fait que tout le monde, en regardant Jésus, on voyait un témoignage évident que Dieu était avec Jésus à cause de tous ces miracles-là. Le contraire de ça, c'est si il n'y aurait eu aucun miracle, si Jésus n'aurait fait aucun miracle, ça n'aurait pas été si évident de ça que de savoir que Jésus venait de Dieu. On serait peut-être même pas là. C'est important, nous, humains, de voir des preuves, d'entendre parler de preuves que Dieu était vraiment à travers Jésus, puis qu'il parlait à travers Jésus, puis qu'il agissait à travers Jésus. Comment est-ce que Dieu l'a montré? Mais il dit, il l'a montré par des miracles, des prodiges, puis des signes. Là, vous allez peut-être vous dire, « Ouais, mais ça, lui, c'était Jésus. » C'est normal que lui, peut-être qu'on va admettre que l'Esprit de Dieu était sur lui. Là, il y avait des miracles dans sa vie. Il y avait un témoignage puissant. Des milliers de personnes allaient à Jésus. Quasiment tout le monde dans ce temps-là se sont fait baptiser d'eau en disant qu'ils voulaient suivre Jésus. Je ne dis pas qu'ils ont tous persévéré, mais ça dit que quasiment tout le monde, toutes les foules venaient à lui, même des sacrificateurs, ceux qui étaient de la religion juive, parce qu'ils voyaient avec Jésus, il y a de quoi de spécial. Tout le monde l'écoutait, tout le monde était attentif. Mais vous allez vous poser la question, mais à quoi que ça peut servir? Pour nous, on n'est pas Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus, puis vous, vous n'êtes pas Jésus. Les disciples qui sont venus, ils ne sont pas Jésus. Mais y a-t-il des promesses qu'on pourra vivre quelque chose de spécial avec le Saint-Esprit? Oui, il y en a! On va leur envoyer des belles promesses. Première promesse, on va voir ce que Jean-Baptiste a annoncé. Vous savez tous que Jean-Baptiste est envoyé au devant de Jésus pour préparer le chemin à Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste prêchait? Luc 3:16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le message de Jean-Baptiste était centré sur une chose, deux choses, parce qu'il y a un autre verset que Jean-Baptiste prêchait. « Repentez-vous que le royaume des cieux est proche. » Puis la deuxième chose, que Jésus était pour vous baptiser du Saint-Esprit. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot baptême, là, pour ceux qui ne savent pas la différence, qu'est-ce que ça veut dire d'être baptisé du Saint-Esprit? Si je prends un verre, je le remplis d'eau. Il est plein d'eau. Si je prends le verre puis je le mets dans une chaudière d'eau, le verre, il est comme revêtu tout autour plein d'eau. Mais le mot baptême veut dire immerger. Comme un sous-marin, pas quand que le sous-marin est en surface, quand que le sous-marin est dans le fond de l'eau, il est immergé. Il y a de l'eau tout autour de lui. Mais le mot baptême veut dire immerger. Enseveli, complètement recouvert. Fait que quand que la Bible nous dit qu'on peut recevoir l'Esprit, ça veut dire que ça parle qu'on peut, il peut rentrer en nous. Mais quand que la Bible parle d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas juste le Saint-Esprit en toi, comme le verre qui est, il y a de l'eau dedans. C'est que tu prends le verre puis tu le mets dans une chaudière d'eau, puis là, il y a de l'eau tout le tour. Ça veut dire que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas juste l'Esprit-Saint qui rentre en toi, c'est que tu en es complètement immergé, revêtu, enseveli dans l'eau. Jean-Baptiste, depuis le début, a prêché au monde, « Dans peu de jours, vous serez, lui, en Jésus, pas dans peu de jours, il a dit, « Lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Pas juste le Saint-Esprit. Il annonça aux gens, vous ne recevrez pas juste d'être revêtus du Saint-Esprit, vous allez être revêtus de feu. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dans le monde spirituel, on est comme revêtu de feu quand tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. On se promène dans ce monde, puis on devient une lumière dans ce monde, pas à cause qu'on s'appelle Daniel Poulain. Daniel Poulain, il est rien. Daniel Poulain, il est juste un vase de c'est une unité carbone, comme qu'on dirait dans certains films, un vase de terre. On est fait de poussière. On est juste un vase contenant le Saint-Esprit. Puis quand tu es revêtu, C'est là que tu deviens une lumière. C'est là que, spirituellement parlant, dans le monde invisible, il y a quelque chose qui brille, qui sort de nous. Puis ce feu-là, en même temps, j'ai compris que ça, quand il va nous revêtir de feu, ça sous-entend aussi l'offrande. Quand dans l'Ancien Testament, le prophète Élie, il a mis son offrande là, puis Dieu, pour agréer son offrande, qu'est-ce qu'il a fait? Le feu est descendu du ciel, il a consumé l'Holocauste, toute l'offrande était complètement brûlée, puis avant de faire l'autel, puis toute l'offrande, puis tout ça, ils ont dit « arrosez-les ». Puis il y avait un fossé tout le tour, puis il était rempli d'eau. L'offrande, quand que le feu est descendu, ça a tout brûlé. Le bœuf qui était là, le bois qui est en dessous, puis toute l'eau qui était là, tout est tombé. D'un coup, le feu a tout dissimé, puis il restait rien qu'une petite tache de poussière noire à terre. Là, je suis en train de faire une petite caricature comme dans un film. Mais quand Dieu revêt, quand Dieu baptise de son Saint-Esprit, il nous revêt de ce feu, il agrée cette offrande que nous sommes, il est content de voir qu'on s'est donné à lui, puis il consomme notre offrande, puis il la saisit par ce feu-là, puis nous sommes devenus des flammes de feu dans ce monde. C'est une promesse qui a commencé que Jean-Baptiste a dit, moi, je suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais lui, en parlant de Jésus, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que c'est une promesse qui était donnée pour les gens qui sont autour. Pour nous aussi aujourd'hui. On voit des versets qui parlent de ça. Jésus lui-même a commencé à annoncer cette même parole-là. C'est dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus dit, « Là, vous êtes avec moi depuis trois ans et demi. Vous avez vécu des miracles parce que j'étais là. Mais attendez, dans pas long, vous allez recevoir une puissance. » C'est la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui revêt, qui équipe le croyant, puis qui nous donne une puissance qui vient d'en haut, qui fait de nous des témoins. Acte 1, 5. Jésus a parlé aussi dans un autre moment, ça c'était presque avant qu'il parte. Car Jean y a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus l'a annoncé plusieurs fois à ses disciples. Il y a un revêtement de puissance, le Saint-Esprit va vous baptiser. Comme j'ai dit, il va vous immerger, il va vous revêtir. Puis ça, c'est la puissance d'en haut qui va venir sur vous. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, Jésus est encore en train de le dire à ses disciples, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand cette puissance-là va venir sur vous, il dit, c'est là que vous serez mes témoins. Un enfant de Dieu sans être revêtu du Saint-Esprit ne peut pas être un témoin, ne peut pas briller, ne peut pas expérimenter la puissance. Pour expérimenter la puissance, comme Jésus l'a vécu, il a guéri des malades, il a chassé des démons, puis toute la patente, pour pouvoir lever, il fallait que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Si tu aspires à vivre la présence et la puissance de Dieu, puis tu la réclames, réclame-la. Le Seigneur a dit qu'il va te baptiser du Saint-Esprit, il va venir sur toi, tu vas être revêtu de la puissance d'en haut, puis là, tu vas être un témoin. Tu vas briller, le feu de Dieu va être sur toi, il va se passer des signes, des prodiges, des miracles dans le nom de Jésus, dans ta vie. Je vais vous lire un passage de l'Ancien Testament Ça veut dire, c'est annoncé avant que Jésus vienne que Dieu répandrait son Saint-Esprit puissamment à tout le monde qui le veulent, bien entendu. Dans Joël 2, verset 28 à 32, après cela, c'est ça, c'est une promesse de Joël, c'est une promesse de Dieu que parle le prophète Joël, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il y a du stock dans ce verset-là. Mais ce qu'on va peser là, ce matin, il y a une promesse depuis l'Ancien Testament, il y a une promesse que Dieu a dit qu'il répandrait son esprit sur tout le monde. Pas juste les adultes, les enfants aussi. Puis pas juste les gens libres, même les serviteurs, les servantes, ça sous-entend, même les esclaves, t'arrêtes des esclaves, tout le monde pourrait recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il ferait une fois que les gens l'auraient reçu? Au verset 28, « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Prophétiser, là, c'est annoncer des choses à venir. Révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit, une fois que il dit « Vos fils et vos filles, vos enfants », une fois qu'il serait revêtu de cette puissance, il pourrait prophétiser. Il s'est dit, les vieillards vont avoir des songes. Des songes, c'est des messages qui viennent de Dieu, c'est une vision, c'est un rêve, par des rêves, ou en plein jour. Puis t'es comme absorbé à voir, de voir une image dans ta tête, puis ça veut dire un message qui vient de Dieu. Tu vas pouvoir annoncer aux autres quelque chose qui est important que les gens sachent. C'est une parole qui va venir du Seigneur. Fait que même les vieillards, il dit les jeunes gens, des visions. Quand quelqu'un dit « J'ai vu un ange qui m'a parlé » ou d'autres qui ont vu le ciel ouvert, puis parce qu'il y en a qui ont rendu ce témoignage-là, ils ont vu les temps de feu, ou il y en a d'autres qui ont vu la Jérusalem céleste en vision. Il y en a qui ont vu des choses, puis c'est des messages qui sont donnés par Dieu. Ça dit « Je répandrai mon esprit. » Il va faire paraître des prodiges. C'est quoi une chose prodigieuse? Mais en français, prodigieux, c'est fantastique, étonnante, incroyable. Croyez-le ou non, qu'est-ce qui est plus prodigieux qu'une guérison instantanée? Il y a plein de monde qui font des files à l'hôpital pour être guéri. Puis la Bible, elle nous dit qu'une fois que tu seras revêtu de cette puissance-là, tu pourras en voir des prodiges dans ta vie. Tu vas voir des gens guérir instantanément. Mais ce qui arrive, c'est que dans la vie chrétienne, des fois, on prend ça à la légère. Quelqu'un a mal à la tête, on impose les mains, le mal de tête disparaît, puis on n'a pas l'air d'être plus excité que ça. Pourquoi? Parce que on est rendu qu'on trouve qu'un mal de tête, c'est pas si grave que ça, parce que si le gars aurait été chez eux, aurait pris une aspirine, puis il aurait plus eu mal à la tête. On pense que c'est pas grave, puis que c'est pas important. Hey, dans ce temps-là, ça n'existait pas les aspirines. Fait que quand quelqu'un avait mal à la tête, son mal de tête durait bien plus longtemps. Puis quand quelqu'un il se faisait imposer les mains, puis que ça dit qu'il guérissait tous les maux. Un mot, quand... Ça, c'est le pluriel de mal. De tous les mâles. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le cou, j'ai mal à la tête. Mais Jésus guérissait tous les maux de tout le monde. Puis il dit dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit, puis je vais en faire des actes prodigieux, des actes étonnants. La même chose que ce que Jésus a fait. Des maux qui disparaissent, un mal de tête qui disparaît, mais gloire à Dieu, il m'a imposé les mains. Il a fait une prière dans le nom de Jésus, puis je suis guéri instantanément. Il faut se réjouir de ça, c'est une touche du Saint-Esprit. Autant que c'est aussi important de le dire, puis de rendre gloire à Dieu, que si ça serait un cancer. Parce que mon frère, lui, c'était pas un cancer, mon frère, c'est qu'il avait un tiers de son cœur paralysé à cause de deux attaques cardiaques qu'il a faites dans la même journée. Puis il avait un tiers de son cœur qui était paralysé, il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. Puis, croyez-le ou non, je vous le dis, ça a été confirmé par un médecin. On a prié pour lui. Il a prié chez eux. Plusieurs personnes priaient. Il a senti Dieu lui toucher. Puis il a été guéri. Puis ça a été confirmé par le médecin que son cœur a été guéri. Il y en a encore des guérisons. Juste un exemple, la semaine passée, dimanche passé, à l'Agapé, Pierre Martin, il avait mal à la tête. Il nous a demandé de prier pour lui. On était l'autre bord. Son mal de tête a disparu instantanément. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il est venu tout croche. Il disait, je suis béni au bout. Dieu l'a touché. Dieu a enlevé son mal de tête. C'est pas un acte inodin. C'est pas un acte. C'est un acte important. C'est un acte extraordinaire. C'est un prodige. C'est un miracle. C'est un signe. Des signes, des prodiges, des miracles. Dieu montre qu'il est là. Dieu répond aux prières. Dieu agit encore aujourd'hui comme qu'il l'a dit. Que ce soit pour un simple mal de tête ou un cancer, il faut rendre gloire à Dieu pour toutes les guérisons. Parce qu'il n'a pas pris aucune aspirine, puis c'est suite à l'imposition des mains, en commençant la prière, ça a tombé sur lui puis il a été guéri. Pourquoi que je vous dis ça aujourd'hui? Je veux stimuler votre foi. Je veux vous donner le goût, parce que vous ayez le goût d'en vivre plein de guérisons comme ça. Vos enfants, combien de fois chez nous, on a prié pour nos enfants qui ont mal au ventre. Le mal de ventre disparaît instantanément. Des mâles de tête disparaissent instantanément. J'ai même pas assez de doigts pour compter toutes les fois. Puis, d'autres moments où ce qu'on était, quand on a parlé de délivrer des captifs, des esprits qui attaquent les gens pendant la nuit, ou dans le jour, puis les gens, ils sentent un esprit de peur, puis là, ils ont peur, puis ils sont comme enveloppés. Bien, moi, je les ressens quand il y a un esprit de peur dans un appartement. Puis je le sens. L'enfant réagit, puis il dit qu'il a peur, puis il y a quelque chose là autour de lui qui l'enveloppe, puis qui fait peur. Dieu m'a donné que quand je rentre dans la pièce, je le sens qu'il est là. Là, je commande dans le nom de Jésus de sortir, puis il s'en va. Puis après ça, elle sent plus cette peur-là. Mais ça, c'est de résister au diable, puis il fuira loin de vous. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois rechercher, être rempli, revêtu de la puissance d'en haut, puis vous allez en vivre, vous aussi, des signes, des prodiges, des miracles, des songes, des visions. Il dit oui sur mes serviteurs et mes servantes, puis des prophéties, annoncer des paroles pendant qu'on est en train de louer le Seigneur. Là, il y a quelqu'un qui a une parole, il annonce la parole tout haut, puis des fois, il révèle des pensées des cœurs, des fois, il dit des choses qui annoncent des choses à venir. Il faut s'attendre à ce que Dieu puisse avoir une pleine liberté d'agir dans nos réunions. Il faut le désirer. Si on dit... on n'a pas besoin de ça, le Saint-Esprit, puis on pense qu'on peut vivre la vie chrétienne sans avoir le Saint-Esprit. Ça dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous êtes témoins de rien. Vous parlez fort de votre bouche, mais ça n'a aucun effet, aucun impact, parce que ça prend la puissance de Dieu qui agit. Puis qui accompagne votre témoignage. J'étais en train d'ouvrir la bouche, puis là, Dieu va agir, puis Dieu va répondre à des miracles, par des miracles, puis Dieu va confirmer que ce que vous dites est vrai. Puis les gens vont sentir cette paix-là. Hey, c'est pas des farces que je vais vous dire là. Mon frère, avant qu'il soit sauvé, Moi, j'étais chez nous, chez ma mère, avec mon frère, puis mon frère était dans des bouches par-dessus sa tête. Il connaissait pas ça, un contact avec Dieu. Moi, je me rappelle plus à quelle période de ma vie, je sais pas si je revenais du Mexique ou quoi, mais j'avais ma guitare, j'étais tout seul avec lui. Là, j'ai commencé à louer, on était tous les deux dans le salon, j'ai commencé à louer le Seigneur, chanter une coupe de chant, tranquillement. Là, l'onction du Saint-Esprit est descendue. Mon frère l'a ressenti. Il était touché. Après ça, mon frère, il disait à tous ses amis, il disait, « Mon frère fait descendre le bon Dieu. » Il a été touché par la puissance du Saint-Esprit. Il a senti cette paix-là. Après ça, lui-même, il a commencé à le dire aux autres. Il y a quoi? Puis ça, c'est un témoignage. Dieu a confirmé ce que je fais ou ce que je dis en manifestant un signe qui peut toucher une personne. Il y a beaucoup de vos proches qui ont été touchés. Ils disent peut-être pas, mais quand vous priez pour eux autres, il se passe quelque chose. Des fois, ils ferment les yeux puis ils veulent pas y voir les signes. Mais c'est pas grave. Faut s'attendre à ce que la puissance de Dieu est là puis la réclamer. Il dit ça, c'est jusqu'à quand que ça va se manifester, ces signes-là? Au verset 31, ça dit, il va y avoir le soleil qui va changer en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ça veut dire que ces signes-là sont supposés de se manifester jusqu'à temps que ça soit le jour de l'Éternel. Quand on va voir Jésus revenir sur une nuée, puis c'est l'enlèvement. On va en vivre de ces signes, de ces miracles-là, de ces prodiges, de cette effusion de l'Esprit, jusqu'au jour de l'Éternel, jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Après, on n'aura plus besoin. Mais en attendant, il y en a qui disent aujourd'hui, que j'ai entendu dans certains enseignements bibliques, « Oh, le Saint-Esprit, c'était dans ce temps-là, puis le parler en langue, c'était dans ce temps-là, puis les dons spirituels, c'était dans ce temps-là, puis c'est plus pour aujourd'hui. » Je regrette. Ce verset-là, il dit, c'est jusqu'à temps que Jésus revienne, l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce jour-là, ça va être à son retour. Fait qu'attendez-vous encore à pouvoir le vivre. Si vous ne le vivez pas, c'est parce que vous ne le demandez pas. Il dit, le verset, comme j'ai dit tantôt dans la louange, il dit, si méchant comme on l'est, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Nous pouvons lui demander, nous devons lui demander. C'est pas si ça vous tente. Si tu veux être chrétien, il faut que tu demandes sa puissance. Là, tu vas être un témoin. Comment a eu lieu le début de l'accomplissement de cette promesse-là? Ben ça, c'était dans l'Ancien, mais c'était à la Pentecôte, dans Acte 2. Les versets de 1 à 4. Ça, la Pentecôte, c'est quand Jésus était avec, il est mort sur la croix. Pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples. Puis pendant tous les 40 jours, il expliquait aux disciples des choses qui concernent le royaume des cieux. Puis il a répété plusieurs fois à ses disciples, vous attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que les disciples ont fait quand Jésus est parti pour la dernière journée qui est apparue? Les disciples étaient tous ensemble dans une grande pièce, ils appelaient ça la chambre haute, parce que c'était une chambre au deuxième étage. Il y avait 120 personnes qui priaient. Tous les jours, ils priaient, « Seigneur, donne-nous ta puissance! » On l'a chanté tout à l'heure. « Seigneur, donne-nous ta puissance! Baptise-nous de ton feu! » Donne-nous ta puissance, revêt-nous de ton Saint-Esprit. Jésus venait de le dire 10 jours avant, attendez d'être revêtus, et vous, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous ta puissance. Puis il priait, puis il priait, puis il priait, puis tout à coup, rouge, pendant qu'ils étaient tous assemblés dans la maison, il y a eu un vent impétueux. Un vent impétueux, c'est pas un... Non. Un bruit tellement fort de vent qui s'est produit qu'il y avait plein de monde dans cette ville-là. Il y a 3000 personnes qui se sont accourues au bord de ce balcon-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe là. Il y a eu un vent impétueux qui a rempli la maison. Puis là, ça dit qu'il y a eu comme des langues de feu. Ils ont tous vu une vision. Puis il y a des langues qui se sont séparées les unes des autres. Puis il y a comme une langue comme vous avez dans votre bouche, qui viendrait sur votre tête, puis qui viendrait sur la tête des 120 personnes qui étaient rassemblées dans ce lieu-là. Puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, puis se sont toutes mis en parlant d'autres langues, dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Puis là, au bruit que ça a fait, puis à la manifestation d'entendre tout le monde crier comme ça, la foule s'est assemblée. Puis là, le monde, il y en a qui commencent à rire, puis à dire, ils sont pleins de vin doux. Ha, 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 ils sont sa brosse. Ça, c'est un langage québécois. Ils ont tous l'air d'une gang de gossous. Pierre prend la parole, puis il lui dit, ils sont pas ivres, comme vous le supposez. Il est juste 9h du matin. Il dit, ils viennent de s'accomplir la promesse de Joël, celle que je viens juste de vous lire, que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens des visions, les vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit, puis ils prophétiseront. Pierre il a dit, c'est cette promesse-là qui vient de s'accomplir. L'effusion de l'esprit vient d'arriver. C'est pour ça que là, on parle en langue, puis on prophétise, puis il se manifeste la puissance. Il y a des visions, on voit des langues de feu, puis on est tous remplis du Saint-Esprit. Quand tu en es revêtu du Saint-Esprit, ça te remplit. Demandez pas à Dieu juste de dire, donne-moi ton esprit, non. Mandez-y, revêt-moi de ton esprit, baptise-moi de ton esprit. Prenez un verre vide, mettez-le dans une chaudière d'eau. Il n'est pas un que revêtu, il en est rempli aussi. Mais quand ils ont été revêtus de cette puissance-là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Puis dans d'autres versets que tu vois dans le Nouveau Testament, être baptisé du Saint-Esprit, ça symbolise être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence à être rempli du Saint-Esprit puis de le recevoir, le Saint-Esprit. Tu peux avoir reçu l'Esprit puis marcher sur un fond de verre qui est même pas à moitié vide. Tu sais? Tu peux avoir reçu l'Esprit, là, X années, mais aujourd'hui, là, quel niveau qui est ton gauge? À quel niveau que t'en es rempli? T'es-tu rempli? Mais si tu veux être rempli, maintiens-toi rempli du Saint-Esprit. Là, je suis rendu dans Actes 2:37. Qu'est-ce qui en a été du résultat quand tous les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit? Les 3000 personnes y étaient autour. Pierre, il sort dehors, puis il commence à leur dire, c'est la promesse de Joël, puis là, il leur explique que c'est la puissance de Dieu qui vient de tomber, comme c'était annoncé dans l'Ancien Testament. Là, il est en train de leur amener à croire, à comprendre qu'ils ont crucifié Jésus, puis c'est à cause de ça qu'on a pu l'avoir, mais c'est eux autres qui ont crucifié Jésus, ceux qui étaient là, les Juifs. Mais c'était sûr, c'était pas tout le monde qui était là, mais il les a quand même mis sur le nez. Toute la foule qui était là, plus de 3000 personnes qui étaient là, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tout le monde braillait. Les 3000 étaient en train de pleurer parce que le Saint-Esprit les a touchés. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas d'impact sur le monde. Mais quand le Saint-Esprit te revêt et tu rouvres la bouche pour parler, le Saint-Esprit fait une œuvre et il touche les cœurs. Les gens, ils disent, il y a quelque chose, ce gars-là. Il me dit des affaires, puis j'ai de la misère à les oublier, je fais rien que penser à ça. Tu sais, le Saint-Esprit travaille, il les touche. Mais ces gens-là, à Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Puis là, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? » Le Pierre en a profité. « Repentez-vous! » Demandez pardon à Dieu. Ça dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Faut que pour qu'une personne puisse recevoir le Saint-Esprit, faut que premièrement qu'elle se repente. Faut qu'elle demande pardon. Quand une personne demande pardon, c'est là qu'elle est pardonnée. Puis après ça, tu demandes le Saint-Esprit, c'est là qu'il te donne le Saint-Esprit. Tu peux pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir demandé pardon. Parce qu'on parle pas de n'importe quel esprit, on parle de l'Esprit Saint. Puis il habitera pas dans un vase corrompu. Il faut qu'on demande pardon. Une fois que tu as demandé pardon, il te pardonne à cause que Jésus a tout payé. À cause tu crois que Jésus a tout payé, il te pardonne, puis là, ton vase, il est net. Là, tu peux recevoir quelque chose de sacré. C'est quoi qu'on reçoit? L'Esprit sacré. L'Esprit Saint. Il rentre en toi. Là, il dit, c'est ça qu'il nous dit, repentez-vous, chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis ça s'adresse à qui, cette promesse-là? C'est juste pour dans ce temps-là? La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Puis là, il dit, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortant, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse! » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de 3000 âmes. Ça, c'était glorieux. 3000 personnes qui se sont converties en se repentant, en demandant le Saint-Esprit, puis que là, que la puissance de Dieu a tombé, puis c'est là qu'était le départ de l'Église du Seigneur. Pour qui est la promesse du Saint-Esprit? Le verset 39 le dit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin. Dieu veut répandre le Saint-Esprit à moi, à vous, à vos enfants, et tous ceux qui sont dehors. En autant que les gens veulent le recevoir, Dieu veut le répandre. Gloire à Dieu! Quelles sont les conséquences de recevoir cette promesse? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois comprendre avec ça, une fois qu'on l'a reçu? Être rempli du Saint-Esprit, est-ce permanent? Que doit faire tout croyant? Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Qu'est-ce que je dois comprendre une fois que je l'ai reçu? Est-ce que c'est pour tout le temps que je l'ai reçu, la plénitude, puis le revêtement, toute cette puissance-là? Non, c'est pas pour tout le temps. Est-ce que ça arrive que des fois, on se dit, « Ah, ben moi, v'là 30 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, puis aujourd'hui, je ne sais pas. » On peut pas le savoir si on le demande pas. On peut savoir qu'on l'a pas, mais on peut pas savoir qu'on l'a sans l'avoir. Parce que c'est quand tu l'as reçu, le Saint-Esprit, qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Si tu vis que sans le Saint-Esprit, tu es comme dans un désert. Tous les jours, tu sens que se passe rien. Tu vas à l'église, t'es même tanné. T'as plus le goût de lire la Bible. T'as pas le goût de prier. T'as pas le goût d'entendre les messages qui parlent de Dieu quand le prédicateur prêche. T'as pas le goût d'entendre l'enseignement. T'as pas le goût de rien faire. Quand ta tank est à sec, essayez de partir avec votre char quand votre réservoir est vide. Aussitôt que la dernière goutte va être passée, là, ton auto, elle arrête là. Après ça, comment tu fais pour qu'elle avance? C'est par tes forces qu'elle va avancer parce que tu vas être en arrière en train de la pousser. Toi ou ta femme qui pousse. Sa femme. C'est la même affaire. Voulons-nous vivre la vie chrétienne par nos forces? En marchant sur une tank vide, puis on essaie de forcer pour devenir chrétien, pour essayer de changer dans notre vie. On voudrait que les choses changent. On a besoin de guérison. On pense que c'est juste par mes forces que je vais être guéri. Je vais essayer de me concentrer. Oh, faut que je sois guéri. Faut... Puis des paroles positives. Tu vois, je vais être guéri, je vais être guéri, je vais être guéri. Ça, c'est par notre force. C'est comme être obligé de pousser son char pour qu'il avance. Dieu veut mettre du gaz dans votre auto. Il veut que votre tank soit pleine, puis il veut qu'elle soit pleine à tous les jours, spirituellement parlant. Il veut que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut tous les jours afin d'être remplis du Saint-Esprit. Puis la vie de l'Esprit va se manifester dans votre vie tous les jours. Tous les jours, vous allez louer le Seigneur. Tous les jours, vous allez prier. Tous les jours, vous allez lire votre Bible. Tous les temps qu'il y a des bonnes réunions que Dieu donne, vous allez y aller pour entendre les messages puis pour louer le Seigneur avec les frères et sœurs. Vous allez ouvrir la bouche puis vous allez parler de Dieu parce que c'est les choses de Dieu qui vont vous intéresser. Vous allez avoir des besoins des guérisons. Vous allez demander à votre femme, impose-moi aimer, ou vous allez imposer aimer à vos enfants, puis ils vont être guéris. Parce que je dis pas que ça va être guéri à tous les coups. Parce que Dieu a un plan aussi dans les guérisons. Tu lui demandes, puis quand il te le confirme dans ton cœur, tu pries avec foi, tu doutes pas, le Saint-Esprit va agir, puis Dieu va répondre. Parce que Dieu exauce les prières qui sont selon sa volonté. Vous allez avoir besoin de délivrance. Oh, j'ai un problème d'alcool. T'as toujours soif d'alcool. Puis là, tu t'essayes par tes forces, ça marche pas. Mais si tu demandes au Saint-Esprit d'en être rempli, revêtu, puis tu demandes à lui de te délivrer, il va le faire. Il va te donner tous une délivrance. C'est lui qui va l'avoir faite. C'est par sa puissance à lui, pas par vos forces. Ça dit, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. T'as un entretien à faire. Notre auto, on l'a notre auto. On est content d'avoir une auto. Puis elle roule bien, notre auto. Négligez de changer l'huile. Faire l'entretien normal. Qu'est-ce qui va arriver? Le moteur va saisir. Au bout de tant de temps, l'huile, elle n'a plus sa viscosité. C'est pour ça qu'il faut changer l'huile à tous les 5000 km. C'est un entretien régulier pour maintenir ton auto dans la bonne condition. Si tu ne veux pas qu'elle se détériore, faut que tu fasses tes changements d'huile. Si tu négliges de faire ton changement d'huile, ton moteur va saisir. Ton moteur va chauffer puis tes cylindres vont saisir. C'est la même chose aux yeux de la vie d'un chrétien. Tu dois chercher à t'entretenir pour être rempli du Saint-Esprit. C'est à tous les jours qu'il faut que tu cherches à être rempli du Saint-Esprit. Puis la méthode pour en être rempli est écrite dans ce verset-là. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, puis tu chantes des chants au Seigneur, tu es en train de t'entretenir pour être continuellement rempli du Saint-Esprit. Une preuve de ça, que c'est pas permanent, parce qu'il y en a des doctrines évangéliques que j'ai déjà entendues qui disent « Ah, mais quand tu es né de l'Esprit, quand tu as reçu l'Esprit, quand tu t'es converti, tu as été baptisé du Saint-Esprit, puis c'est pour toute ta vie. » Moi, dans la Bible, je vois qu'à la Pentecôte, quand ils ont reçu la première fois le Saint-Esprit, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Oui. Mais acte 4, les mêmes disciples qui avait été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils venaient de vivre une persécution. Les Juifs, ils ont dit, j'avais plus le droit de parler de Jésus, puis là, ils lui mettaient des interdictions. Là, ils ont commencé à avoir la frousse. Ils ont prié Dieu. Quand ils ont fini de prier, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont prié dans acte 4? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Comment se fait qu'il pourrait être encore rempli s'il était déjà plein? Ça marche pas de même. Il y a acte 2, il était rempli. Acte 4, ils ont été remplis. Ça nous démontre quoi? Qu'il faut que tu le demandes tout le temps d'être rempli. Faut que tu te maintiennes rempli. C'est pas à cause que, v'là 30 ans, quand tu t'es converti, tu étais rempli qu'aujourd'hui, il faut plus que tu le demandes. Ils ont eu besoin de le demander encore, puis que ça s'est passé, qu'ils ont reçu encore d'être remplis du Saint-Esprit, puis ça leur a redonné de la force de pouvoir parler de Jésus. Si on veut, nous autres même, avoir la force de parler de Jésus, être un témoin, il faut être rempli du Saint-Esprit. Paul, dans Corinthiens, il y a eu des preuves qu'il était rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Comment est-ce qu'il y avait des preuves que Paul était rempli de l'Esprit et qu'il était vraiment un disciple du Seigneur? Des signes, des prodiges, des miracles. Ça a été annoncé qu'on en vivrait, puis c'est pour nous autres. Pour chacun de vous aussi. Dieu veut répandre son esprit, puis il veut manifester dans vos vies des signes, des prodiges, des miracles. Hébreux 2:4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hey, Hébreux 2:4, là, c'est hot. Dieu veut appuyer leur témoignage. Il veut appuyer notre témoignage. Quand on parle de Dieu, il veut nous appuyer. Avec quoi? Des signes, des prodiges, des miracles. Et par les divers dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Parce que quand tu es revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne des dons spirituels. Toutes sortes de dons spirituels, puis sont énumérés dans le prochain verset qu'on va aller lire, dans 1 Corinthiens 12, 7. On va finir avec ce verset-là. Ça donne une liste des divers dons spirituels qu'on peut recevoir quand on est baptisé du Saint-Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pourquoi que je devrais recevoir le Saint-Esprit? Ça le dit, là, à quoi que ça sert de recevoir le Saint-Esprit? Pour qui que ça doit être donné, ces dons-là? On vient de le lire. La manifestation de l'Esprit est donnée pour quoi? Pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi, ça? Si je manifeste la puissance de Dieu, c'est pour qui et pourquoi? C'est pour l'utilité commune. Pour que tous ensemble, on puisse goûter ces dons-là. Si moi j'ai un don, c'est pour vous. Si vous avez un don, c'est pour les autres. Pour que tout le monde soit édifié, nous devons rechercher à posséder ces dons-là. Ça fait partie de ce que Dieu veut nous donner. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, un autre la foi. Ça, c'est la foi qui fait des miracles. Un autre le don des guérisons. Par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Ça, c'est pas des choses que vous pouvez faire par vous-même. Tous ces signes-là, là, vous n'êtes pas capable de pratiquer ça tout seul par votre force, pas essayer de vous forcer à faire une prophétie ou vous forcer à interpréter une langue. Mais le Saint-Esprit peut vous donner des paroles, puis des flashs, puis des idées, puis il va vous donner ce qu'il veut que vous disiez. Il dit, c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, puis il les distribue à chacun, en particulier, comme il le veut. Il les distribue à chacun, en particulier, comme il le veut. Pour qui doivent être distribués? À chacun. C'est pas juste au pasteur avec les dons spirituels. C'est pas juste à l'évangéliste. C'est pas juste aux enseignants. C'est pas juste aux leaders de la cellule. C'est pas juste au mari dans la famille. C'est pas juste à la femme, à la mère. Même les enfants, on l'a dit, même si les enfants, ça peut être répandu. En autant que vous aspiriez, que vous le demandiez, que vous recherchiez à l'avoir, ben vous maintenez là-dedans, vous allez en vivre. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, puis en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Je vais faire un appel, puis je vais faire une prière. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça, le recevoir, le baptême du Saint-Esprit? En passant, c'est pas moi qui le donne, c'est pas moi qui le distribue. Ça dit dans le verset, un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, le distribuant. C'est le même esprit, le Saint-Esprit qui distribue. Fait que là, quand je fais la demande ce matin, voulez-vous recevoir la puissance de l'Esprit? Mais c'est le Saint-Esprit, c'est les yeux sur Dieu le Père, en priant dans le nom de Jésus, demandez-lui de vous revêtir du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va distribuer sur vous les dons, sa puissance, puis vous allez être des témoins. Puis cette Église-là, elle va péter le feu. Parce qu'il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ce feu-là, on a notre besoin. Cette puissance-là du Saint-Esprit, on a notre besoin. Pour que nos vies changent, pour que nos vues, on soit encouragés les uns par les autres, par les dons spirituels, et aussi pour que le monde voit cette lumière, et qu'ils viennent à Jésus, en pleurant, en ayant le cœur touché, nous demandant, « Homme, frère, que ferons-nous? » Puis on va leur dire, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est la chose à distribuer aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est pas la chose, c'est la personne à distribuer. Les gens doivent réaliser qu'ils ont besoin de la présence et la puissance du Saint-Esprit. Eux aussi doivent le réaliser. Mais s'ils ne voient pas dans les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas demander ce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas demander ce qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, mais demandez-lui encore de vous en remplir, revêtir, puis de vous équiper de ses dons. Puis, ce soir, vous le demandez encore. Demain matin, vous le demandez encore. Puis demain soir, pour être maintenu dans le Saint-Esprit, puis votre vie chrétienne va s'en aller comme ça, en montant. Parce que ça ne sera pas votre force, ça va être ses forces à lui. Je fais un appel, s'il y en a qui veulent le recevoir, avancez-vous en avant. Ceux qui veulent être renouvelés, avancez-vous en avant. Je vais faire une prière qui va vous aider à partir dans votre demande. Après ça, vous continuerez chez vous, en tout temps, en tout moment, pour continuer à le demander de vous maintenir rempli, revêtu de la puissance de l'Esprit.